Oui, bonjour Julien Dufrier.
Bonjour.
Julien Dufrier, avec vous, nous partons en Amérique centrale, au Nicaragua exactement. Depuis le mois d'avril, ce pays est en ébullition. Des manifestations ont lieu et elles sont réprimées par les forces de l'ordre. Il y a eu exactement, si le compte est bon, 317 morts depuis cette période, depuis le mois d'avril. Que réclament les manifestants?
Alors, d'une manifestation qui était à la base partie sur le retrait d'un projet de loi de réforme de la sécurité sociale, de par l'escalade des événements et de la répression qui a été prodiguée par le gouvernement, aujourd'hui, c'est clairement la sortie du pouvoir de Daniel Ortega qui est demandée à travers un processus d'élection anticipée.
Je l'ai dit, il y a beaucoup de violence, on le constate avec ces morts. Vous-même, en tant que doctorant, en tant que chercheur universitaire, est-ce que vous avez pu travailler tout au long de ces mois, puisque vous êtes revenu du Nicaragua tout récemment, est-ce que vous pouvez travailler sans problème?
Alors, c'était très compliqué de travailler au Nicaragua depuis le 18 avril, date du début des protestations. Ça l'était déjà auparavant. J'avais eu un terrain compliqué lors des dernières élections municipales au mois de novembre 2017. Mais bien sûr que ça s'est tendu et je travaille sur les structures locales du pouvoir sandiniste au quartier. Et aujourd'hui, c'est bien sûr l'omerta et il est très difficile de travailler dans les quartiers.
C'est-à-dire...
C'est-à-dire que sa présence est souvent
La
suspecte,
vôtre,
la
oui.
vôtre, enfin la mienne,
Oui.
celle de journaliste également, où on est très vite affublé d'adjectifs comme d'infiltré, de travaillant pour je ne sais quelle officine de contre-intelligence, etc.
Alors, qu'est-ce qui a déclenché exactement cette colère? Vous avez commencé à nous l'évoquer, mais vous n'avez pas été au bout. Qu'est-ce qui a déclenché le point de départ de cette
Alors,
colère?
la réforme qui a été introduite de manière unilatérale par le gouvernement, en rupture avec le modèle qui a été prodigué du dialogue, alliance et consensus entre l'État, le secteur privé et les syndicats, a été l'élément déclencheur des protestations. Mais c'est tout un terreau qu'il faut analyser. Depuis 2013 et le mouvement Occupines, il y avait eu déjà.
Alors, Occupying, rappelez-nous.
Occupines, c'était en fait un mouvement de retraités qui avait pris le bâtiment de la sécurité sociale à Managua,
La capitale.
la capitale, qui l'avait occupé et qui avait été ensuite délogé par les bandes sandinistes aidées de la police,
Celles qu'on appelle les turbas,
celles qu'on appelle les
qui sont des groupes assez violents.
qui sont des groupes violents, majoritairement composés d'éléments de la jeunesse sandiniste et généralement appuyés par des éléments on les appelle les bagos, c'est-à-dire des jeunes généralement marginalisés qu'on va recruter pour quelques cordobas dans les quartiers.
Alors les cordobas, c'est
C'est la monnaie locale,
la monnaie
pardon.
locale. Donc est-ce que on peut dire que ce sont des groupes paramilitaires?
On peut dire que ce sont des groupes. Eux, non, on ne peut pas dire que ce sont des groupes paramilitaires. Ils officient comme en marge de la police, sous la protection de la police, en toute impunité. Mais généralement, ces turbas ne sont pas armés. J'allais dire d'armes à feu. Elles sont munies de bâtons, de battes, de baseball, etc., de barres de fer. Et c'est de la répression purement à coups de bâton. Et voilà.
Mais est-ce que c'est cette répression à coups de bâton qui a fait 317 morts?
Non. Ce qui a fait cette répression de 317 morts, suivant le dernier rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, là aussi il y a une bataille des chiffres, mais enfin, le nombre de morts avalisés par
La CIDH?
la CIDH est de 317 morts. Non, ce qui a causé 317 morts, c'est effectivement l'usage de forces parapolicières qui sont majoritairement de ce qu'il a pu être dit, composées d'anciens militaires, d'anciens policiers ou de policiers actifs, d'agents de sécurité privée qui sont recrutés et qui effectivement ont armés de fusils d'assaut, de AK, de M15, ont pu tirer.
Alors pourquoi le pouvoir sandiniste, pourquoi est-ce que le président Daniel Ortega, dont on n'a pas encore prononcé le nom
Oui.
dans cette interview, pourquoi est-ce qu'il réagit si violemment à ces manifestations?
L'une des hypothèses est que l'ampleur du mouvement qui s'est déclenché à partir du 18 a été telle qu'il n'avait pas les moyens de le réprimer, suivant des techniques policières, j'allais dire, d'anti-mutinerie, enfin, ce qu'ils appellent anti-émeute, classique, comme on peut avoir en France ou dans d'autres pays, et que ça a été tout de suite une répression extrêmement violente pour casser le mouvement à la base. D'ailleurs, ça a été un élément assez surprenant, c'est le mutisme du pouvoir, et notamment le mutisme de Daniel Ortega. Entre les premières protestations du mercredi 18 avril et sa première prise de parole le dimanche 22, il y a eu 4 jours de mutisme total du président Ortega, entouré par un certain nombre de rumeurs qu'il était parti du pays puisqu'il va souvent se soigner à Cuba. Et donc ça a été 4 jours où le pouvoir a réellement vacillé.
Les plus âgés de nos auditeurs se souviennent peut-être qu'en 1978, le même Daniel Ortega était arrivé au pouvoir en révolutionnaire, en libérateur, contre le dictateur de l'époque, Anastasio Somoza.
Oui.
Comment expliquer l'évolution de cet homme qui, en 40 ans, est passé du statut de libérateur, de révolutionnaire, au statut, sinon de dictateur, du moins de dirigeant très autoritaire?
Alors, il est probablement, lorsqu'il est arrivé en 1979, Daniel Ortega n'était pas la figure représentative du mouvement. Peu à peu, il est monté parmi les leaders de la révolution, et il s'est imposé comme le leader principal et le seul et unique candidat du Front Sandiniste depuis les élections, depuis les 7 scrutins présidentiels qu'il y a eu entre 1984 et 2016. C'est surtout une stratégie de concentration de pouvoir autour de sa personne. Et aujourd'hui d'un couple présidentiel, puisque c'est sa femme qui officie en tant que vice-présidente du Nicaragua.
Rosario Murillo, c'est son nom.
Rosario Murillo.
Quel est son rôle?
Alors, son rôle est notamment basé sur le verrouillage de la communication du gouvernement. C'est-à-dire qu'à travers le Conseil de communication et de citoyenneté, c'est elle qui, chaque jour à 14h, sur une chaîne public pro-gouvernement dispense la communication officielle et qui verrouille depuis maintenant presque 11 ans la communication du gouvernement de réconciliation et d'unité nationale.
Est-ce que ce jusqu'au boutisme du pouvoir s'explique aussi par des intérêts économiques?
Ça s'explique bien évidemment par des intérêts économiques, puisqu'on sait que un certain nombre, notamment à travers la coopération bolivarienne et les accords Petro-Caribe.
Donc avec le Venezuela.
Avec le Venezuela, pardon. Et la formation d'un consortium Albanisa, donc Alba de Nicaragua, qui est en fait en charge de la gestion de l'aide vénézuélienne. Un certain nombre de programmes et d'entreprises ont été montés et appartiennent ou à ce qu'on appelle des testaferos, c'est-à-dire les prête-noms, mais qui sont proches de Daniel Ortega et de sa famille. Parmi celles-ci, on a des hôtels, comme l'hôtel Seminole à Managua. Vous avez aussi une ferme production agricole, enfin dans la production agricole, des banques, des hôpitaux, des universités, etc.
Est-ce que l'Église nicaraguayenne joue un rôle important?
L'Église nicaraguayenne a toujours joué un rôle important dans ce type de crise. Lorsqu'on refait un peu l'histoire et qu'on reprend les archives, l'Église a toujours été un acteur politique central dans la négociation des conflits. Et aujourd'hui, d'autant plus, c'est elle qui a pris le rôle de médiateur et de témoin du dialogue national qui s'est initié le 16 mai. Et c'est elle aujourd'hui qui est aussi qui subit les foudres du pouvoir et les critiques, la délégitimisation, etc. Et un certain nombre d'agressions.
Merci Julien Dufrier.
C'est moi qui vous remercie.